Le journal Loïc Barrière. Emmanuel Macron a annoncé ses priorités pour la présidence française de l'Union européenne face à la crise migratoire. Il annonce notamment une réforme de l'espace Schengen. Le gouvernement a tenu son deuxième comité interministériel sur la laïcité. Parmi les sujets évoqués, les référents laïcité dans les collectivités locales et le renforcement du rôle des préfets sur les maires en cas de manquement à la laïcité. Nous écouterons le député Vincent Ledoux. Lors de sa visite à Alger, le ministre français des Affaires étrangères a souhaité la reprise des échanges politiques entre les deux gouvernements en 2022. Une place des tirailleurs africains verra le jour porte de Clignancourt. Entretien avec Maps Yaffa, adjoint au maire du 18e arrondissement de Paris. Enfin, coup de projecteur sur la Coupe arabe des nations avec le journaliste Franck Orokoti. Emmanuel Macron plaide pour une réforme des accords de Schengen. Le chef de l'État a présenté les grands axes de sa politique à l'occasion de la présidence française de l'Union européenne qui commence le 1er janvier. Le président Macron souhaite une Europe souveraine sur de nombreux sujets, à commencer sur la maîtrise de ses frontières. On écoute un extrait de sa conférence de presse ce jeudi après-midi.
S'il fallait résumer en une phrase... Le premier axe de cette présidence, c'est cette Europe plus souveraine. L'Europe souveraine, c'est d'abord, c'est pour moi le premier aspect, une Europe capable de maîtriser ses frontières. Ces dernières semaines nous l'ont encore montré à travers la crise que nous avons vécue à la frontière orientale de l'Europe. Dès la fin de l'été, à la frontière lituanienne et lettonne, puis à la frontière polonaise. Protéger nos frontières est une condition indispensable à la fois pour assurer la sécurité des Européens, pour relever le défi migratoire et éviter les drames que nous avons vécus, les situations de forte tension que nous avons vécues, les guerres hybrides auxquelles nous sommes aujourd'hui confrontés, à la frontière avec la Biélorussie, mais également les drames humains ensuite qui en sont les conséquences directes à travers ces trafics qui sont organisés, comme ce que nous avons vécu dans la Manche, il y a quelques semaines, à travers le drame que nous connaissons tous. Et pour éviter que le droit d'asile qui a été inventé sur le continent européen et qui est notre honneur ne puisse être dévoyé, nous devons absolument retrouver une Europe qui sache protéger ses frontières et retrouve sur la question migratoire une organisation politique qui nous mette en situation de défendre ces valeurs. C'est pourquoi nous initierons sous cette présidence une réforme de l'espace Schengen autour de deux priorités. La première, ce sera la mise en place d'un pilotage politique de Schengen. Comme nous l'avons fait pour la zone euro, nous avons mis en place une organisation politique de celle-ci avec des réunions régulières au niveau des ministres des Finances. Nous souhaitons installer une organisation et un pilotage politique de cet espace Schengen à travers des réunions régulières des ministres en charge de ces questions. C'est en effet de la crédibilité européenne et en particulier de celles et ceux qui se sont engagés dans cette coopération renforcée qu'est Schengen, de pouvoir avoir des réunions régulières, de prendre des décisions politiques, de pouvoir renforcer les contrôles aux frontières et d'avoir une politique cohérente de maîtrise de nos frontières extérieures. Deuxièmement, souhaitons porter la création d'un mécanisme de soutien d'urgence aux frontières en cas de crise. Quand un État membre doit soudainement faire face à une crise qui exige de renforcer le contrôle aux frontières extérieures de notre Union, comme nous l'avons vécu encore une fois récemment, il doit pouvoir compter sur l'appui de Frontex, agence commune dont c'est la vocation, mais également le renfort solidaire des États membres en policiers, gendarmes comme en matériel.
Le président Emmanuel Macron qui présentera les orientations de la présidence française de l'UE le 19 janvier devant le Parlement européen. Un deuxième comité interministériel de la laïcité à Matignon, organisé ce jeudi à l'occasion de la journée de la laïcité, une journée qui correspond à l'adoption de la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État. Parmi les points abordés par les membres du gouvernement, le renforcement du contrôle du préfet sur les maires en cas de manquement à la laïcité, mais aussi la mise en place l'an prochain de référents laïcité dans toutes les administrations et collectivités locales. Je vous propose d'écouter le député Agir Ensemble, Vincent Ledoux. Il est à l'origine de la proposition de loi visant à instituer une journée nationale de la laïcité pour tous le 9 décembre.
J'avais souhaité cette journée nationale en proposant notamment une loi sur l'instauration de cette journée officielle, puisque il y avait déjà à l'éducation nationale un certain nombre de moments qui étaient organisés autour de cette question, avec des réflexions, des ateliers d'enfants. Et finalement, lorsque l'on faisait le bilan, qui était très très peu suivi, parce que ça, encore une fois, ça fait appel à la motivation des enseignants, ça fait appel à une dynamique en commun. Et donc je pensais, dès lors, en regardant le bilan de l'éducation nationale, qu'il fallait que toute la nation puisse participer de cet élan, en fait. Pourquoi ? Parce que la laïcité, d'abord, c'est le fruit d'un combat très 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 long, et que parfois, ce combat peut être remis en cause par des forces obscures qui n'ont qu'une seule envie, c'est de pouvoir nous diviser, nous faire questionner sur la véracité du schéma que nous avons adopté il y a maintenant plus de 2 siècles. La laïcité, c'est vraiment, j'ai presque envie de dire, dans l'ADN de la France, et le bien commun. C'est d'ailleurs parfois ce qui est mal compris par nos partenaires d'autres continents chez qui la laïcité, ça paraît être une ovni tout à fait singulière. Donc c'est important. C'est important d'avoir, parce que le drapeau français, c'est liberté, égalité, fraternité, mais cette laïcité, c'est une valeur, j'ai presque envie de dire, tout autant importante, parce qu'elle garantit vraiment à la fois les religions, hein, certains pensent que c'est contre les religions, mais bien au contraire, ça garantit cette liberté de religion. Pour chacun, et pour moi c'est un respect fondamental de l'être humain.
C'est une journée qui est censée rassembler l'ensemble des composantes de la population française.
Oui, alors ce qui serait intéressant, c'est que dans chaque commune, ça se fait déjà, il y ait des événements particuliers qui rassemblent la population, à la façon des commémorations notamment d'anciens combattants. Alors on sent bien que sur les différents événements de commémoration de guerre, on peine à rassembler, c'est moins le cas pour le 11 novembre qui reste la date vraiment à laquelle chacun se rallie, mais sur les autres c'est compliqué, mais je pense que sur la laïcité particulièrement, on doit être en capacité de rassembler à partir du moment où on crée une dynamique dans les communes. Chaque commune devrait s'emparer, comme on le fait par exemple à Tourcoing, comme on le fait dans mon ancienne commune de Ronques, où on va planter des arbres de la laïcité, où on va réfléchir sur cette notion avec les enfants. Enfin, vous voyez, c'est vraiment une possibilité donnée, et c'est même d'ailleurs très très peu dans l'agenda d'une année, donnée à chacun pour s'interroger sur cette vertu principale qu'est la laïcité et tout ce qu'elle permet à chacun d'épanouissement, en fait.
Et lorsque j'évoquais avec vous l'ensemble des composantes de la société française, je pensais à l'ensemble des fidèles de toute confession.
Mais tout à fait. L'année dernière, j'avais rassemblé moi-même à Aluin, dans une commune donc limitrophe à la Belgique, toutes les religions. Et c'était très, très, très intéressant. Très, très. D'abord, le dialogue interreligieux entre eux, j'ai envie de dire, il est fécond. Mais lorsqu'il est aussi avec les représentants des pouvoirs civils et avec la société tout entière, ça l'est d'autant plus. On apprend beaucoup, finalement, des modes d'organisation des religions, des messages qu'ils passent, de la façon dont ils souhaitent que, finalement, la vie en société s'organise. Donc, c'est vraiment important d'être dans le dialogue des cultures en permanence. Il faut toujours dialoguer avec l'autre, même quand il est très, très éloigné. C'est ça aussi le principe même de laïcité.
Et cette loi de 1905, elle est suffisamment bien comprise aujourd'hui, selon vous, par nos concitoyens ?
Je pense qu'elle est comprise comme l'air qu'on respire, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas à la comprendre, ils sont nés dans un espace de laïcité. Mais elle est fortement combattue. Et c'est ça mon sujet aujourd'hui, c'est de se dire, attention, on est en train de donner des petits coups de canif à la convention qu'est la laïcité, et donc il faut être prudent. Et il faut savoir de où on vient, pour savoir où on a envie d'aller ensemble, tout en se disant que la laïcité reste un principe puissamment moderne.
Et à l'occasion de cette journée, quel message souhaitez-vous adresser, notamment aux plus jeunes d'entre nous ?
Simplement leur dire qu'ils ont une chance inouïe de vivre dans un espace qui est pacifié, où chacun peut pratiquer la religion qu'il veut ou ne pas pratiquer de religion du tout. Et ça, c'est un progrès formidable par rapport au siècle précédent où on n'avait absolument pas le choix. Donc, vivez heureux cette laïcité parce qu'elle vous permet toutes les formes d'expression possibles et d'être un être libre complètement en puissance.
Le député Agir Ensemble, Vincent Ledoux, au micro de François-Xavier de Calonne. Lors de sa visite à Alger, Jean-Yves Le Drian a appelé mercredi à une relation apaisée entre la France et l'Algérie. Le chef de la diplomatie française a été reçu par le président Tebboune. À l'issue de cette rencontre, le responsable français a souhaité la reprise des échanges politiques entre les deux gouvernements en 2022. L'Algérie, a dit Le Drian, est un partenaire essentiel pour la France, sur le plan bilatéral mais également sur le plan régional. En octobre dernier, des déclarations du président Macron sur la question mémorielle et l'histoire de l'Algérie avaient suscité la colère des autorités algériennes. Le président français a depuis fait part de ses regrets. Et puis le président Tebboune a reçu le recteur de la Grande Mosquée de Paris. À cette occasion, Shems Eddine Hafiz lui a remis une nouvelle édition de la traduction du Coran de Hamza Aboubakr, ancien recteur. Shems Eddine Hafiz a évoqué avec le président algérien la formation des imams et les imams détachés. Une place des tirailleurs africains, dits tirailleurs sénégalais, verra le jour, porte de Clignancourt à Paris. Un devoir de mémoire, réagit Maps Yaffa, adjoint au maire du 18e arrondissement de Paris.
Alors nous avons voté en conseil d'arrondissement le fait de rebaptiser la place de la porte de Clignancourt, qui va être rebaptisée au nom des tirailleurs africains, dits tirailleurs sénégalais. Et c'est ce qui a été voté en conseil d'arrondissement et c'est un projet qui a été porté par l'ensemble des élus de l'arrondissement et en particulier certains d'entre nous, où nos parents sont originaires justement d'Afrique de l'Ouest et pour certains, leurs parents ont combattu dans l'armée française, notamment en 39-45 ou Indochine. Et pour nous, c'était un devoir de mémoire, c'était quelque chose d'extrêmement important, le fait d'honorer ces combattants qui sont morts pour la France, qui ont versé leur sang pour la France et qui n'avaient jusqu'alors, hormis l'initiative qui avait été portée par ma consoeur Aïssata Seck, notamment élue de Bondy sous le gouvernement de François Hollande, où on a commencé à rétablir un certain nombre de tirailleurs sénégalais dans leurs droits. Voilà.
Il est important que les Parisiens se rappellent des tirailleurs sénégalais et de leur rôle dans la libération de la France.
Tout à fait, c'est extrêmement important. À partir du moment où vous avez 140 000 hommes qui ont été mobilisés, qui ont participé au débarquement de Provence, qui ont libéré, j'ai envie de dire, plus de 60% de l'Hexagone, et à qui on a empêché justement de parader à la fois dans Paris et sur les Champs-Élysées au moment de la libération de Paris, et qui ont continué puisqu'ils sont partis par la suite en Alsace, en Meurthe-et-Moselle, et ils ont continué en Allemagne pour la libération et pour défendre nos libertés à tout un chacun. C'était extrêmement important de pouvoir faire en sorte que ces tirailleurs sénégalais soient justement remis au goût du jour et qu'on se rappelle des actes héroïques qu'ils ont pu faire en 100 ans.
Maps Yaffa, adjoint au maire du 18e arrondissement de Paris. Pour lutter contre la cinquième vague de Covid, les pharmaciens qui pratiquent la vaccination pourront ouvrir leurs officines tous les dimanches en décembre et en janvier. Plus de 15 000 pharmaciens disposent de doses de vaccins ARN messagers. Enfin, la Coupe arabe des nations, début des quarts de finale demain. À 16h, l'équipe de Tunisie jouera face à Oman. À 20h, le Qatar affrontera les Émirats. Entretien avec Franck Orokoti, journaliste chez Africa Top Sport. Il nous explique les enjeux de cette compétition.
Ça fait très longtemps que cette compétition-là existe. Ça permet donc à ces pays-là de se réunir et puis de partager leurs valeurs. Et en ce qui concerne justement cette compétition par rapport à la Coupe du Monde, ça va permettre à ce que ces pays qui vont participer à la Coupe du Monde et qui sont déjà inscrits donc dans cette compétition, ça va leur permettre donc de se préparer, de se mettre en jambe, de permettre une certaine cohésion entre les joueurs. C'est vrai que certains pays d'Afrique, par exemple, ont joué tout récemment les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, également les éliminatoires de la Coupe du Monde. Mais ça va permettre à ce que ces joueurs puissent créer une certaine cohésion entre eux. Je crois que c'est très important pour eux, parce que lorsque vous allez en Coupe du Monde, C'est vrai, il y a le talent qui compte, il y a l'individualité, mais il faut également le collectif pour essayer donc de battre les pays qui sont très nantis donc en football. Quand on prend par exemple la France, le Brésil et tout ça, si vous n'êtes pas soudés véritablement, ça sera très difficile d'affronter ces genres de pays. Les pays qu'on considère qu'ils vont prendre les trophées, qui sont des favoris.
Vous avez évoqué un partage de valeurs. Ces valeurs, comment est-ce que vous pouvez les définir?
Ce sont les pays arabes. Même quand vous voyez la dénomination de cette compétition Coupe Arabe, ce sont des pays qui partagent déjà cette valeur, je dirais, de courant, qui sont des musulmans. C'est ce que je mets dans valeur.
Quelles sont les têtes d'affiche de cette Coupe Arabe?
Les têtes d'affiche, il y a la Tunisie, par exemple, qui montre une sérénité au niveau de cette compétition. La Tunisie, vous voyez un peu les joueurs qui composent justement cette équipe-là. Vous comprenez que ces joueurs, ils sont chez eux, ils se connaissent très bien. Surtout également le Maroc, qui a fait également une sensation lors de la dernière édition, qui est le détenteur d'ailleurs du trophée. Donc vous voyez également l'Algérie qui est l'un des favoris de cette compétition, qui est là également. Donc je crois que les pays maghrébins au niveau d'Afrique qui sont également favoris par rapport donc à cette compétition. Mais on peut citer également les pays comme les Émirats Arabes Unis, parce que tout simplement, ils ont également un championnat très, très évolué. Et donc, je crois que voilà, ce sont ces pays-là qui sont des figures au niveau de cette compétition.
Franck Orokoti, journaliste chez Africa Top Sport, au micro de François-Xavier de Calonne. Et si on en parlait à 19h et 23h sur Radio Orient, le populisme s'installe au cœur du discours politique. Poison ou remède pour la démocratie, c'est le thème de cette émission. Alexis Bachelet reçoit Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, et Stéphane Rosès, président de CAP et enseignant à Sciences Po. C'est la fin de cette édition. Merci d'être fidèle à Radio Orient.